Merci, allez-y.
Alors, ah, là, ça marche. Bon, vous avez donc compris, mais je vais quand même le redire. Travailleuses, travailleurs, camarades et amis. Il est manifeste aujourd'hui que les dirigeants du monde capitaliste sont incapables de maîtriser la crise de leur économie. Les réunions de plus en plus fréquentes des chefs d'État à l'échelle européenne ou mondiale ressemblent à un très mauvais feuilleton. Toutes les grosses têtes au service de la classe privilégiée, des prix Nobel d'économie, au PDG grassement payé, sont désarmées devant les soubresauts des marchés financiers. Les actions en bourse sont en hausse un jour, en chute libre le lendemain, au gré de la spéculation et de l'humeur de ce que l'on appelle les marchés financiers, en fait des grandes banques et des fonds de placement qui opèrent pour le compte des grands capitaux et qui jouent, jour après jour, le sort de l'économie à la roulette russe. À ceci près que l'arme n'est pas pointée sur eux-mêmes, mais sur les classes populaires, et avant tout sur les travailleurs, les chômeurs, les retraités. Car s'il est manifeste que la classe privilégiée ne contrôle pas sa propre économie, il est plus manifeste encore qu'elle veut en faire payer les dégâts au monde du travail. Depuis le déclenchement de la crise financière il y a 3 ans, ce sont les travailleurs, dans leur ensemble, qui ont payé la crise, avec ce qu'il y a de plus essentiel pour eux, leur emploi, leur pouvoir d'achat, leur retraite. Le recul des conditions de vie s'accélère et il s'accélérera à chaque aggravation de la crise, comme c'est le cas depuis quelques mois. Sous prétexte que les États sont trop endettés et qu'il faut rembourser cette dette, tous les gouvernements d'Europe et du monde sont en train d'imposer des plans d'austérité drastiques à la majorité exploitée de la population. À celles et ceux qui ne sont pour rien dans l'aggravation de l'endettement des États et qui n'ont jamais touché le moindre centime des milliards empruntés par les gouvernements auprès des banques. La bourgeoisie et ses serviteurs au sommet de l'État sont en train de préparer des coups pires encore. Ils sont en train de nous refaire le même coup qu'en 2008 pour sauver les banquiers de la crise financière dans laquelle ils avaient précipité le monde. Cette fois-ci, le prétexte est de sauver l'euro, disent les uns, de sauver la Grèce, disent les autres. Eh bien, ceux qui prétendent qu'il s'agit de sauver la Grèce sont les plus crapuleux. Des licenciements massifs, notamment par l'État, la baisse des salaires, l'amputation des retraites, la ruine des petits commerces parce que les salariés n'ont plus d'argent pour se payer la nourriture quotidienne, c'est cela qu'ils appellent un plan de sauvetage? Le plan d'austérité qui est imposé aux classes laborieuses de la Grèce n'est pas fait pour les sauver, mais pour les enfoncer dans la misère. Ceux que les gouvernements européens sont décidés à sauver, une fois de plus, ce sont les banquiers. Ce sont tous ces banquiers qui se sont jetés sur la Grèce comme des vautours pour prêter à des taux usuraires. Et maintenant qu'ils sont inquiets à l'idée que même en pressurant toujours plus la population grecque, le gouvernement ne puisse pas les rembourser, eh bien ils veulent que ce soit les États les plus riches, l'Allemagne et la France qui les remboursent. Et les États font des ponts d'or aux banquiers. Ils font tout pour sauver leurs affaires, pour sauver leur fortune. Mais les banquiers sont-ils devenus pour autant plus responsables? Est-ce que les capitalistes de l'industrie ou du commerce se sont mis à investir? Bien même pas. L'argent qu'ils récupèrent directement par l'exploitation ou indirectement par les cadeaux de l'État, ils n'en font rien d'utile pour la société. C'est de l'argent qui est englouti dans les grandes fortunes. C'est de l'argent qui est dilapidé dans la spéculation et qui nuit à toute l'économie, à toute la société. Et c'est pour ce gâchis innommable qu'il faudrait accepter de réduire le nombre d'instituteurs, d'enseignants, accepter de réduire le personnel hospitalier, fermer les bureaux de poste. C'est pour ça qu'il faudrait faire des sacrifices. Eh bien non, la population ne fera pas de sacrifices. Les intérêts de la dette, 50 milliards par an, sont en passe de devenir le premier poste de dépenses budgétaires devant l'éducation nationale. Cela veut dire que l'on donne plus à quelques banquiers qu'aux 12 millions d'enfants et de jeunes scolarisés pour les éduquer, pour les cultiver. Et attention, ce que le gouvernement veut réduire, ce n'est pas ce qu'il donne aux banquiers, mais ce que lui coûte l'éducation de la jeunesse. Et tant pis s'il y a des classes surchargées d'un côté, des fermetures de classes de l'autre. Tant pis s'il n'y a plus de remplaçants et de moins en moins de possibilités de travailler en petits groupes pour s'occuper des élèves en difficulté. Alors on dit de ces enfants qu'ils sont en échec scolaire. Mais il voudrait mieux dire qu'ils sont rejetés par le système scolaire. Le gouvernement reportera la faute sur les parents ou sur les jeunes eux-mêmes. Mais c'est lui qui est coupable. C'est lui qui fabrique une jeunesse déboussolée et désocialisée. C'est sa politique qui conduit la société vers la décomposition, vers la violence du chacun pour soi. Voilà pourquoi tous les travailleurs doivent rejeter tout appel au sacrifice. Ils doivent d'abord imposer leurs propres exigences, revendiquer le droit à un travail, le droit à un salaire, le droit à une vie digne. Aux travailleurs, aux exploités, nous avons à dire qu'ils ne doivent pas se laisser impressionner par les problèmes des banques, de la dette, de l'euro ou de la crise, qui seront de toute façon utilisés contre eux comme des moyens de chantage pour qu'ils acceptent ces sacrifices. Le problème, ce n'est pas de choisir parmi les décisions de la bourgeoisie laquelle permettra d'éviter la débâcle. Aucune ne l'évitera. Les travailleurs n'ont aucun moyen d'empêcher les crises, sauf à supprimer le capitalisme. Mais ils peuvent empêcher la classe capitaliste de leur faire payer la crise. Ils peuvent arrêter la dégradation de leurs conditions d'existence. Aujourd'hui, il y a 8 200 000 personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 954 euros par mois. Mais comment pourrait-il en être autrement? Avec les centaines de milliers de travailleurs qui ont perdu leur emploi, qui ont été d'abord plongés donc dans le chômage et puis dans les minima sociaux. Comment pourrait-il en être autrement avec les salaires qui ne suivent pas le coût de la vie? Quel est le salaire qui a suivi la flambée des prix de l'immobilier ou du gaz? Quelle est la pension de retraite qui a augmenté au rythme du prix des produits alimentaires, au rythme des mutuelles et des assurances? Même se soigner coûte de plus en plus cher. Entre le déremboursement des médicaments, les franchises médicales, les dépassements d'honoraires. Et combien d'entre nous hésitent avant d'aller chez le dentiste ou avant de remplacer sa paire de lunettes? Combien d'entre nous renoncent à acheter ce qu'on appelle maintenant les médicaments de confort? Et puis pour la jeunesse, eh bien, ces 3 années de crise ont été des années perdues. Ce sont des centaines de milliers de jeunes, y compris diplômés, qui n'ont pas trouvé de travail et qui n'en trouvent toujours pas. Et ce n'est pas faute d'envoyer des CV, d'accepter même des stages bidons. Sauf pour une toute petite minorité, la jeunesse travailleuse est obligée de galérer parfois des années avant de trouver un vrai emploi. Autant dire que les classes populaires l'ont payé, cette crise. Et elles continuent de la payer avec ce qu'elles ont de plus cher. Et sur la balance des sacrifices, la taxation de 3% des plus riches ne pèse vraiment pas lourd. Quant à ceux qui défendent l'idée de taxer de 0,01% les transactions financières pour mettre à contribution les spéculateurs, eh bien ils sont en dessous de tout. En achetant notre baguette de pain, on paye 5,5% de taxes. Et puis sur la majorité de nos achats quotidiens, on paye 19,6% de TVA. Et on ne demanderait à ces messieurs les spéculateurs qui, à chaque transaction, empochent des millions, de ne payer que 0,01% sur des transactions qui nuisent à toute la société. Et c'est ce que les plus à gauche font passer pour le summum du radicalisme. Eh bien, avec de telles propositions, la bourgeoisie peut dormir tranquille. L'égalité des sacrifices est d'autant plus grossier que non seulement la bourgeoisie ne paye pas sa dette, puisqu'elle l'a fait payer aux classes populaires, mais parce qu'en plus, ça lui rapporte. Les 50 milliards d'intérêts de la dette qui sont payés chaque année partent encore dans sa poche à elle, puisqu'ils sont encaissés par les banquiers et par les groupes industriels qui se livrent à des opérations financières. Ils veulent gagner le beurre et l'argent du beurre. Alors, ce que nous, communistes révolutionnaires, nous avons à dire aux travailleurs, c'est que le chantage des ministres concernant la dette ne doit pas nous empêcher de nous défendre, de défendre nos emplois, de défendre notre pouvoir d'achat. Confrontés à la crise, Les capitalistes compensent leurs pertes ou le ralentissement de leurs affaires en aggravant l'exploitation. Ils augmentent les cadences, réduisent la masse salariale, ils licencient. Certaines entreprises se permettent même tout simplement de baisser les salaires. C'est le cas à la fonderie du Poitou Aluminium à Châtellerault où travaillent 480 salariés. La direction a annoncé à la veille des vacances de l'été la mise en place d'un plan de compétitivité qui conduit à une perte de salaire de 23%, c'est-à-dire 350 à 500 euros par mois, sur un salaire d'ouvrier. C'est ça ou la fermeture de l'usine, de la fonderie, ose prétendre la direction. Mais le groupe Montupé, propriétaire de la fonderie, a affiché des résultats financiers et industriels records sur le premier semestre 2011. Et la fonderie elle-même, elle est bénéficiaire. Et puis un autre exemple, bien sûr, vous connaissez bien ici, c'est le groupe Peugeot Citroën. Il ne lui a pas suffi de battre un record de vente en 2010 et de faire plus d'un milliard de bénéfices. Il ne lui a pas suffi d'enrichir la famille Peugeot de 2 millions par jour. Eh bien, il lui en faut encore plus. Et pour ça, il projette la fermeture de 3 de ses usines. Il projette de mettre 6 000 travailleurs à la porte. Alors on voit, ne serait-ce qu'avec ces deux exemples, qu'avec cette crise, les capitalistes mènent leur lutte de classe avec une violence redoublée. Eh bien, c'est à nous, travailleurs, de mener la nôtre. Alors, les ouvriers de la fonderie Montupé, dont je vous ai parlé, ont bien compris qu'ils n'avaient pas le choix. Et depuis maintenant 4 semaines, ils sont en grève totale pour sauver et leur emploi et leur salaire. Ils se sont lancés dans un combat long et difficile pour sauver leur peau et nous sommes bien sûr de tout cœur avec eux. Oui, le sort des travailleurs dépend de la lutte de classe, du rapport de force entre les travailleurs et le patronat. Et ce n'est pas l'élection présidentielle de 2012 dont on nous parle du matin au soir qui changera cela. Tous les gouvernements qui se sont succédés, qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche, ont toujours laissé les patrons faire ce qu'ils voulaient quand ils n'ont pas pris fait et cause pour eux. La seule perspective politique valable pour les travailleurs, c'est d'inverser le rapport de force, c'est de ne pas se laisser faire, c'est de rendre coup sur coup. Il n'y a pas de raccourci électoral. Car il n'y a jamais eu de sauveur suprême pour les travailleurs. Tout ce que les travailleurs ont obtenu, ils l'ont arraché au patronat, par des grèves, par des manifestations. La seule façon d'arrêter les coups portés à la classe ouvrière, c'est une explosion sociale, où des millions de travailleurs se mettent en mouvement, et qui fassent craindre à la bourgeoisie de perdre non seulement beaucoup d'argent, mais aussi son pouvoir sur les entreprises. Les journalistes me posent souvent la question « Comment se fait-il que malgré l'aggravation de la situation, vous, les communistes révolutionnaires, vous n'êtes pas suivis et que l'explosion sociale n'a pas lieu ?» Mais nous, les communistes révolutionnaires, nous n'avons pas plus que quiconque le don de prévision. Ce que nous disons, c'est que cette explosion sociale, elle est nécessaire, indispensable pour arrêter les coups de la classe privilégiée portés aux classes exploitées. Ce sont les attaques du grand patronat contre les travailleurs, l'avidité des riches, le cynisme de leurs serviteurs politiques qui finiront par provoquer une explosion sociale. Quand, où et comment les luttes se déclareront, personne ne le sait, et nous non plus. Mais il serait vain de broder à ce propos. En revanche, nous avons tout intérêt à ce que le jour où cela arrive, nous soyons prêts. Et se préparer, eh bien, c'est discuter de nos revendications, c'est fixer des objectifs qui nous unissent, par-delà la situation individuelle des uns et des autres, par-delà notre branche professionnelle ou notre catégorie. Des objectifs qui unissent les travailleurs en activité à ceux qui ont été poussés au chômage et également aux retraités. Des objectifs qui pourraient nous renforcer. Parce que le jour où les travailleurs entrent en lutte, eh bien, il faut qu'ils sachent où ils veulent aller. La colère ou même la détermination ne suffiront pas. Il faut aussi avoir une conscience claire de nos intérêts de classe pour ne pas laisser des charlatans nous détourner vers des impasses et à plus forte raison vers des voies qui sauvent la mise à la bourgeoisie. Il faut qu'il soit clair pour tous que les dégâts de la crise seront inévitablement payés. Et si les travailleurs ne veulent pas que la bourgeoisie et ses dirigeants politiques la leur fassent payer, eh bien il faut contraindre les possédants à payer les dégâts qu'ils ont causés. C'est eux ou c'est nous. Tous les responsables politiques qui prétendent venir en aide aux exploités, mais sans s'en prendre aux exploiteurs, à leur profit, à leur fortune, sont des charlatans. Non seulement les travailleurs ont le droit humain, moral, de refuser de payer la crise à la place des profiteurs de l'économie capitaliste, mais leurs intérêts se confondent avec ceux de toute la société. La pire chose qui puisse arriver serait qu'il n'y ait pas de réaction à la hauteur de la part des travailleurs. Car alors, tous les privilégiés, préoccupés seulement de leurs profits privés, totalement irresponsables à l'égard de la société, se sentiraient encouragés. Pourquoi s'arrêteraient-ils donc de spéculer si, lorsqu'ils gagnent, ils empochent, et lorsqu'ils perdent, l'État leur vient en aide, avec l'argent prélevé sur notre dos? La crise, personne ne peut l'arrêter. Et toutes leurs tentatives dans ce sens depuis 3 ans le montrent amplement. Alors nous avons à protéger nos seuls moyens d'existence. Il faut les protéger et les défendre bec et ongles, en imposant l'interdiction des licenciements et la répartition du travail entre tous, sans diminution de salaire. Les exploiteurs ont l'argent pour cela. C'est précisément cet argent qui, au lieu de servir au maintien de l'emploi pour tous, est détourné vers les opérations financières. Et c'est pour ça que toute la société en crève. Eh bien, cet argent serait 1000 fois mieux utilisé à des embauches et au paiement des salaires. Nous devons aussi défendre nos salaires et les pensions de retraite des anciens en imposant leur augmentation conséquente pour rattraper le pouvoir d'achat perdu. Et pour préserver ce pouvoir d'achat, il faudra les indexer sur les hausses des prix, de sorte qu'à chaque hausse, les salaires et les pensions augmentent automatiquement. Alors, bien sûr, les patrons capitalistes nous expliqueront, ou plus exactement feront expliquer par leurs serviteurs de la politique et des médias, que tout ça n'est pas possible, qu'il y a la concurrence internationale et que cela les ruinerait. Et bien qu'ils rendent donc public leurs comptes. Alors, pas leurs comptes officiels qui sont destinés au fisc complaisant, mais les comptes où figure tout ce qu'ils versent aux actionnaires, tout ce qu'ils consacrent à des opérations financières, c'est-à-dire à la spéculation, et on verrait alors qu'il y a de quoi assurer l'emploi de tous les travailleurs sans licenciement et qu'ils ont même de quoi augmenter les salaires de tous. Oui, il faut imposer la transparence. Vous l'avez entendu sans doute. On vient d'apprendre que le numéro 2 de la PJ lyonnaise, un commissaire modèle qui a même inspiré un film, paraît-il, est un policier ripou, un mafieux dans tous les sens du terme. Mais il faut dire qu'il a de qui tenir. Il n'a qu'à copier ce qui se passe dans les plus hautes sphères de l'État. Des valises africaines pleines de billets, des ventes d'armes avec rétrocommission, des écoutes téléphoniques, des intimidations et même des bombes qui explosent par mesure de rétorsion. Et tout ça se passe dans les plus hautes sphères de l'État. Les protagonistes sont ceux qui n'ont que les mots de morale, de justice et de démocratie à la bouche. Alors oui, il faut que la population puisse contrôler le pouvoir politique. On nous dit que nous vivons en démocratie parce qu'il y a des élections. Mais une fois élus, les dirigeants politiques peuvent renier tous leurs engagements et faire l'inverse de ce qu'ils avaient promis. Les présidents de la République, les ministres, même pris en flagrant délit, sont protégés par l'immunité. Eh bien, je suis non seulement contre cette immunité, mais je suis aussi pour que tous ceux qui occupent une position de responsabilité publique puissent être révoqués. Et pas seulement les députés ou les ministres, qui servent de fusibles souvent, mais aussi tous ces hauts fonctionnaires qui prennent les décisions au jour le jour. Il faut que toute la population puisse les congédier à n'importe quel moment. Oui, je pouvoir émane de bas en haut, dans le fonctionnement politique de la société. Mais c'est aussi nécessaire dans la vie des entreprises, dans l'activité économique. Les capitalistes cachent leur course au profit privé, dangereuse pour toute la société, derrière le secret des affaires. Ce sont des irresponsables qui ne s'intéressent pas aux conséquences de leurs actes sur la société. Alors, il ne faut pas les laisser prendre leurs décisions dans le secret des conseils d'administration, sans le moindre contrôle, sans la moindre transparence. Pour pouvoir empêcher que les patrons puissent préparer parfois des années à l'avance leurs mauvais coups contre les travailleurs, contre la société, il faut lever le secret industriel et le secret bancaire. Aujourd'hui, un salarié, un cadre, même s'il est au courant d'un projet contraire aux intérêts des travailleurs, de la société ou même de l'environnement, eh bien il a interdiction de le dévoiler. Voilà pourquoi bien des travailleurs sont les derniers avertis quand ils sont licenciés. Voilà pourquoi, quand une entreprise pollue, voire empoisonne la population, celle-ci ne l'apprend qu'une fois que le mal est fait. Eh bien, il faut changer cela et supprimer cet interdit. C'est l'intérêt des salariés, mais c'est aussi l'intérêt de bien d'autres classes ou catégories populaires. Parce que, si on ne prend que l'exemple d'une fermeture d'usine dans une ville ou dans une région, eh bien, ce n'est pas seulement un drame pour les travailleurs qui étaient dans cette usine, mais c'est aussi un drame pour tous ceux qui vivaient autour. C'est un drame pour les artisans, pour les commerçants qui vivaient des salaires de ces ouvriers. C'est une catastrophe pour toute une région. Alors bien sûr, supprimer la loi qui punit actuellement tous ceux qui rendent public les mauvais coups qui se préparent derrière le secret des affaires, ça ne fera pas tout. Cela ne fera que créer les conditions légales d'un contrôle de la population. Mais pour que ce contrôle soit effectif, il faudra encore la volonté de la population de prendre en main ce contrôle et de se mobiliser pour cela, de s'organiser. Mais la suppression du secret des affaires, eh bien ce sera un premier pas qui, nous l'espérons, sera suivi de bien d'autres pour contester la dictature du grand capital. Il faut bien sûr les empêcher de nuire. De plus en plus d'économistes, y compris de dirigeants politiques, défendent à nouveau l'idée de nationaliser les banques. La nationalisation redevient à la mode. Alors bien sûr, les banquiers sont des irresponsables et on ne peut pas leur laisser les commandes des banques, ils les transforment en salles de casino. Mais les nationalisations qu'ils proposent, c'est encore une façon de sauver les banquiers, de sauver leur fortune, de sauver leur sinécure. Eh bien, nous sommes contre le fait qu'en leur rachetant leur entreprise au prix fort, la population paye pour que les actionnaires ressortent gagnants, une première fois avec la nationalisation, et une seconde fois quand il y aura la reprivatisation. Nous sommes pour exproprier les banques sans indemnité ni rachat, parce que nous ne devons rien à ces messieurs les banquiers. Puis il faut fusionner les banques en un seul établissement de crédit et le faire fonctionner au service de la population et sous son contrôle. Voilà quels sont les objectifs vitaux pour le mouvement ouvrier. Nous ne le répéterons jamais assez, mais nous savons que ces objectifs ne peuvent être réalisés qu'au prix de luttes déterminées, massives, mobilisant la majorité du monde du travail. Mais c'est la seule issue. Alors je me présente dans cette élection pour défendre cette politique, ce programme, qui est un programme de lutte pour les travailleurs. Aucun autre candidat ne le met en avant. Même ceux qui se targuent d'être plus radicaux sont trop respectueux du marché, de la propriété capitaliste pour le faire. Les grands partis, du Front National au Parti Socialiste, jusqu'à y compris le Front de Gauche, ont malgré leurs différences une chose en commun. Ils se placent tous sur le terrain de l'organisation capitaliste de la société. Ils considèrent tous qu'il appartient aux riches, aux possesseurs de capitaux, de dominer l'économie et toute la société. Ils considèrent tous que la propriété privée des usines, des banques, des grandes entreprises, des chaînes commerciales est intangible pour ainsi dire une loi de la nature qu'on ne peut pas, qu'on ne doit pas changer. Au-delà de leur ficelle électoraliste et de leur mot d'ordre démagogique, leurs différences politiques correspondent surtout au fait qu'ils visent des électorats différents. Mais ce ne sont que des nuances qui ne remettent pas en cause les inégalités, les injustices du système capitaliste et l'exploitation. Alors, il n'y a aucune raison de laisser le monopole de la parole à ces partis qui s'accommodent d'un ordre social injuste et d'une organisation économique stupide. Je voudrais m'adresser aux plus jeunes d'entre nous. Alors, pas seulement parce qu'ils sont les principales victimes de la crise, mais parce que c'est de la société future dont je parle, la société où ils vivront. C'est peut-être aujourd'hui que se décide ce que sera la société dans 10, 20 ou 30 ans. Les années à venir dépendent de notre capacité à réagir, à nous défendre, à nous battre, à nous organiser aujourd'hui. La dernière crise équivalente à celle que nous vivons, la crise de 1929, a entraîné des luttes puissantes de la classe ouvrière. Celle de 1936, en France, en Espagne. Mais ces luttes, eh bien, elles ont été défaites. Et la société capitaliste a montré qu'elle était alors capable de la pire réaction, de la pire barbarie avec la Seconde Guerre mondiale. L'histoire, bien sûr, ne se répète jamais de la même façon. Mais voilà où la crise du capitalisme peut nous amener. Alors, non, l'avenir de l'humanité ne peut pas être le règne des profits, de l'exploitation, de la concurrence, des inégalités et des injustices. La société capitaliste est une maison de fous, où les crises ne sont pas engendrées par la misère et par la sous-production, mais parce qu'il y a trop d'argent à un pôle de la société, parce qu'il y a trop de production, parce qu'il y a trop de richesses. C'est une économie qui s'étouffe dans sa propre graisse. C'est une économie qui condamne aujourd'hui 12 millions de femmes et d'hommes dans la Corne de l'Afrique, alors qu'on produit le double de la population de la planète. C'est une économie qui n'a jamais eu autant de moyens pour construire vite et bien, mais il manque de plus en plus de logements pour les classes populaires. Plus on peut faire circuler les connaissances et le savoir, moins il y a d'éducation. Et plus on a les moyens de soigner des maladies graves, y compris de réussir des prouesses médicales, et moins les gens se soignent. Alors à tous ceux, jeunes et moins jeunes, révoltés par le gâchis de cette société capitaliste, nous disons que l'avenir appartient aux travailleurs, à leur lutte et au communisme. Au lieu de l'individualisme de la société actuelle, il y a la solidarité, la force collective des travailleurs et de tous les exploités. Chacun a le droit de ne pas se résigner à vivre dans cette société, non seulement injuste, mais aussi irrationnelle, absurde, et de lutter pour un monde meilleur qui utilise les ressources dont dispose l'humanité pour satisfaire les besoins de tous, et pas seulement d'une minorité rapace. Au repli nationaliste, voire xénophobe, il faut opposer l'internationalisme, c'est-à-dire la conviction que les travailleurs du monde entier ont les mêmes intérêts et que les frontières sont des barrières artificielles qu'on dresse entre les uns et les autres pour le plus grand profit des possédants. À tous ceux qui ne se résignent pas, nous disons qu'il y a un autre avenir, celui d'une société débarrassée des inégalités de classe et réorganisée sur des bases communistes. Transformation de la société n'est pas l'enjeu de l'élection présidentielle, et elle ne peut pas l'être. La révolution ne peut pas surgir des urnes, pas plus de celle de l'élection présidentielle que d'aucune autre. La transformation révolutionnaire de la société ne pourra résulter que de l'activité consciente, des masses exploitées, révoltées par leurs conditions d'existence et décidées de prendre le mal à la racine. Mais à une toute autre échelle, il en va de même du programme de lutte que je vous ai exposé ce soir. Aucun vote ne pourrait l'imposer. Mais cette campagne électorale, eh bien, elle nous donne la possibilité d'armer politiquement les travailleurs pour les luttes à venir. Je voudrais enfin vous dire que si cette campagne nous donne les moyens de nous faire entendre à une échelle un peu plus large que d'habitude, ces moyens ne pèsent pas lourd face au matraquage des chaînes de télévision, de la grande presse, qui colportent le point de vue des possédants. Il ne faut pas s'en étonner, Depuis toujours, le mouvement ouvrier a dû se donner ses propres moyens pour défendre sa propre politique. Et parmi ces moyens, eh bien, il y a surtout l'activité des militants, des travailleurs conscients de celles et ceux qui sont dans leur camp et qui partagent ces idées. Alors, nous comptons sur vous tous qui êtes ici pour propager ces idées autour de vous, pour en parler et pour nous aider dans la campagne électorale. Si l'élection présidentielle peut contribuer à faire connaître plus largement nos idées et à les populariser, eh bien, ce sera un pas considérable pour préparer la suite qui se déroulera là où tous les changements se décident, c'est-à-dire dans les entreprises, dans la rue et en tout cas dans les luttes.